Les podcasts de l'Institut de France. En habit vert, rencontre avec un académicien.
Quand on rencontre Jean-Noël Robert, son érudition impressionne d'emblée. Et avec elle, cette façon d'être légèrement à part, comme s'il était en partie absorbé par son propre monde. Derrière l'académicien, derrière le professeur au Collège de France et derrière le grand spécialiste du bouddhisme japonais, il y a d'abord eu un enfant qui, à 13 ans, a décidé très sérieusement d'apprendre presque toutes les langues du monde. C'est une ambition assez folle qu'il n'a jamais abandonnée. Alors il a commencé avec le russe, le chinois et le latin, bien sûr, qui a toujours été sa colonne vertébrale. Il y a eu le tibétain et le japonais, et de ce compagnonnage avec les langues, il a fait émerger une notion singulière dont il est à l'origine, la hiéroglossie. Il en précisera la définition au fil de l'émission. Dans sa vision, les langues ne sont pas des outils, mais des mondes. Mieux encore, les chambres secrètes des civilisations. Le philologue, et non le linguiste, ça il tient à le préciser, traque les correspondances entre les langues. Il est venu nous en parler un matin de mars au studio de l'Institut. Jean-Noël Robert est le 14e invité dans l'habit vert. Jean-Noël Robert, bonjour.
Bonjour.
Jean-Noël Robert, vous auriez pu assurer l'échange qu'on s'apprête à avoir en chinois, en japonais ou même en latin, parce que je suis face à un polyglotte de premier rang. Jean-Noël Robert, on peut vous présenter comme un amoureux et un pratiquant assidu des langues, qu'elles soient vivantes ou mortes ?
En effet, oui, d'une certaine façon, mais c'est un pratiquant tout à fait amateur en réalité. Parce que c'est apprendre une langue, aussi facile que l'on puisse l'estimer a priori, c'est toujours le travail presque d'une vie. Je pense que l'italien, qui est une langue que j'ai commencé tout seul dès le lycée, je n'en viendrai jamais à bout, par exemple. Donc, je me débrouille dans certaines langues, je m'intéresse à beaucoup plus d'autres langues, et il faut voir aussi que ce sont surtout des connaissances écrites plutôt que parlées.
Vous vous êtes intéressé aux langues qui ne sont pas les plus faciles à apprendre pour un Français. J'ai parlé du chinois, du japonais, c'est plus difficile que l'italien dont vous parliez
oui,
à l'instant.
Oui, oui. Et encore. Mais à vrai dire, ce qui m'a toujours fasciné, ce sont les grandes langues de culture et de civilisation qui sont assez restreintes. Un linguiste américain célèbre qui s'appelait Sapir a dit qu'en Europe et en Asie, il y avait 5 grandes langues, n'est-ce pas ? 5 langues fondatrices, en quelque sorte. Vous avez le latin et le grec, ensuite vous avez l'arabe, ensuite vous avez le sanskrit, et ensuite vous avez le chinois classique. Tout ça, ce sont des formes classiques. Et avec cela, vous pouvez à peu près survoler l'ensemble des grandes civilisations, du Finistère jusqu'à Java, n'est-ce pas ?
C'est un peu comme les couleurs primaires qui vont donner
oui,
ensuite...
Oui, c'est pas mal du tout, oui, oui. Voilà, qui peuvent se diviser à l'infini, enfin, plutôt se conjuguer à l'infini pour faire toutes les nuances. Il y a beaucoup, oui, c'est tout à fait vrai.
Oui, et ce que vous dites, c'est qu'il y a quelques langues originelles, comme vous l'avez dit, le latin, le sanskrit. Ouais. Et en fait, à partir de ça, vous avez élaboré une notion qui s'appelle la hiéroglossie.
Voilà, la hiéroglossie.
C'était
quelque chose autour de ça. Voilà, nous allons directement au cœur du sujet.
Mais la
hiéroglossie, en effet, c'est le hiéro de hiéroglossie qui implique le terme de hiérarchie, c'est-à-dire une espèce de classement des langues. C'est le phénomène que j'ai essayé de décrire à partir de cela, c'est-à-dire que ces langues constituent des sortes de noyaux, de cœurs, de soleil en quelque sorte, qui éclairent tout un arc-en-ciel, un éventail d'autres langues qui avaient certainement une culture orale, etc., qui nous échappe, qui vont constituer des concepts, des relations philosophiques à partir de ces langues centrales, en essayant de s'adapter de leur côté au vocabulaire, aux visions du monde que ces langues véhiculent.
Vous nous avez donné un tout petit aperçu de votre savoir immense sur le sujet et dire que vous vouliez devenir astronome quand même quand vous étiez plus jeune. À quel moment vous avez été rattrapé par les langues ?
Je vous ai dit ça ou...
Non, vous ne l'avez pas dit, mais on a fait quelques recherches.
Ah oui, je vais regarder si j'ai un piratage de mon ordinateur. Non, oui, mais c'est vrai, j'ai voulu être astronome. J'avais le premier prix de calcul, comme on disait à l'école primaire et j'attendais avec impatience d'entrer. À l'époque, on parlait du lycée, n'est-ce pas, en sixième, pour faire des mathématiques, de l'algèbre. Et puis, au bout de quelques semaines, je me suis très vite aperçu que l'algèbre, comme on disait à un moment, c'était pas mon truc. Ayant quand même compris que ça avait une certaine importance pour l'astronomie, je m'en suis un peu détaché.
Mais les langues, c'est venu par défaut ou non?
Non, pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose que je raconte souvent, alors je pense que ça doit être la vérité. Non, c'est presque, on pourrait dire, une vocation, une illumination. Et surtout, c'est très nettement datable. C'est ça qui m'a toujours fasciné rétrospectivement. Je peux dater peut-être pas le jour, parce qu'il faudrait que je fasse des recherches, mais en tout cas le mois et l'année, c'était en juillet 1962. Vous voyez que c'est pas d'hier, j'avais 12 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là?
Il y avait à l'époque un hebdomadaire, et c'était une sorte d'encyclopédie hebdomadaire pour les collégiens, comme on dirait maintenant, n'est-ce pas?
D'accord.
Tout l'univers, ça s'appelait Tout l'univers. Et c'était... pour l'époque, magnifiquement illustré, c'est-à-dire c'était de grand format, avec un papier un peu rigide, c'était pas du tout comme les Tintins, Spirou, etc., et qui donnait chaque semaine une trentaine de pages sur des thèmes tout à fait scolaires, l'Empire romain, les gladiateurs, les dinosaures, etc., etc. Cet hebdomadaire avait une couverture de double pages et qui constituait une encyclopédie alphabétique. Et ce mois de juillet 1962, nous en étions à la lettre E, et c'était la couverture, donc c'était écriture, au pluriel, écriture. Et il y avait sur 3 pages, il y avait un tableau tout à fait restreint, parce que les échantillons étaient assez courts, des grandes écritures du monde. Alors vous aviez vraiment de l'alphabet latin jusqu'au tibétain d'ailleurs, le chinois, l'arabe, l'hébreu, il y avait même aussi, les écritures précolombiennes, le géorgien, c'était fascinant, l'arménien, etc., etc. Et ça a été une véritable découverte. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais donc j'allais entrer en quatrième, au mois de septembre, j'entrais en quatrième. J'avais commencé à faire du latin, et en découvrant ça, je me suis dit, c'est formidable ce monde qui s'ouvre, avec en plus une carte où ces écritures étaient situées. Et dans un enthousiasme puéril plus que juvénile, je me suis dit, il faut que j'apprenne tout ça. En classique, on pouvait commencer le grec à partir de la quatrième. Donc le grec était prévu. J'ai dit, bon, c'est déjà ça d'assurer. Je me suis acheté tout de suite une méthode d'assimil de russe.
Donc vous l'avez appris en autodidacte, le russe? Ou c'était à l'école en même temps?
Non. Presque toutes ces langues étaient plus ou moins en autodidacte au début. Enfin, vous verrez, mais j'ai été obligé d'évoluer après. D'ailleurs, si j'avais su, je serais resté en autodidacte. Enfin. Et puis, alors, surtout ce qui m'avait fasciné dans ce tableau, c'était l'écriture chinoise, qui était vraiment... C'est vrai qu'elle est rayonnante au milieu d'un tableau d'autres écritures. Il y avait l'égyptien aussi qui aurait pu... Mais je ne sais pas, c'est le chinois qui m'a vraiment tout de suite attiré. J'ai dit, il faut faire du chinois.
Et dans votre tête d'enfant, vous vous dites, c'est possible d'apprendre toutes ces langues, parce que vous en avez commencé plusieurs.
C'est une espèce d'enthousiasme, vous voyez. Le quotidien, le réalisme impose vite sa loi, mais voilà, j'ai donc commencé d'un coup toutes ces langues, mais sauf le chinois, ça n'allait pas, c'était pas si facile que ça. Il y avait très peu de méthodes de chinois, et il y avait à l'époque des publicités pour une marque qui existe encore, mais je pense qu'on peut la citer parce que
elle n'est plus.
C'est Linguaphone. Donc, achetons une méthode de chinois. Je demande à mes parents. Nous étions donc déjà à peu près autour de la rentrée. C'était assez cher et je demande pour Noël la méthode Linguaphone de chinois. Mm-hmm. Mes parents me prennent pour un fou. Ils étaient toujours très gentils.
Ils ont accepté.
Et je me souviens d'être allé avec ma mère au magasin Linguaphone qui était à côté des Champs-Élysées à l'époque, demander la méthode de chinois. La responsable du bureau me regardait avec des grands yeux. Linguaphone, on a ça? Il dit, c'est sur la publicité. Alors, elle est allée chercher au sous-sol. Elle m'a rapporté une cassette poussiéreuse avec les disques, parce que le grand avantage de la méthode Linguaphone, c'est qu'elle avait des disques, n'est-ce pas? Et apprendre le chinois sans la phonétique, c'est un peu difficile. C'est pas impossible, mais c'est pour le chinois classique. Et je me suis plongé dans le chinois avec un délice absolument ineffable. Et j'ai commencé, alors si on réfléchit bien, ça fait à peu près 64 ans que je m'y suis mis, n'est-ce pas, à toutes ces langues, les brûle le russe, le chinois, le grec, et l'affaire est loin d'être finie. Donc il faudrait encore 64 ans pour essayer d'avancer.
La langue que vous avez choisi d'étudier après le bac, c'est le japonais.
Alors, c'est une très bonne remarque, en effet.
Pourquoi ?
Alors, voilà, je voulais aussi quand même apprendre le japonais. Ça, c'est... Le Japon a toujours été un pays fascinant. En apprenant le chinois...
Vous en aviez marre, finalement, du chinois ? Comment vous êtes passé
au
japonais ?
Loin de là. Mais alors, d'abord, j'avais acheté, toujours en autodidacte, il y avait une merveilleuse méthode qui existe toujours, mais qui a été complètement transformée dans sa nature. C'était une série britannique qui s'appelle Teach Yourself Books, c'est pas apprenez vous-même. Et donc j'avais acheté le japonais, qui était très très bien, vraiment remarquablement bien fait. Mais il y avait un petit problème, c'est qu'ils avaient jugé que l'écriture japonaise était si compliquée qu'ils avaient résolu le problème en l'effaçant, c'est-à-dire que c'était entièrement en écriture latine. Et c'était très bête, mais j'avais 12 ans et demi, 13 ans, n'est-ce pas ? Donc j'espère que je ne penserai pas la même chose maintenant, mais j'avais l'impression qu'avec le chinois, il suffisait d'apprendre des caractères, de les mettre plus ou moins ensemble d'une certaine façon et que ça faisait une phrase et qu'on pouvait lire. Le japonais était une langue grammaticalement, de surface en tout cas, beaucoup plus complexe. La grammaire était compliquée, la syntaxe était tout à fait différente du chinois. En chinois, grosso modo, si vous parlez dans l'ordre de l'anglais, vous arrivez à faire une phrase chinoise moderne à peu près correcte. Le japonais, c'est, l'ordre est entièrement inversé par rapport aux langues occidentales.
Vous êtes la première personne que j'entends dire que le chinois... Et oui. Facile, entre guillemets.
Je me souviens qu'il y avait une méthode qui donnait en appendice 4000 caractères principaux de la langue chinoise. Je les ai appris. Bon, j'en ai oublié la plupart depuis, mais à 14-15 ans, j'avais appris la liste des 4000 caractères. Vous voyez ce que... Mais voilà, on avait l'impression de progresser très vite en chinois. Et le japonais, je me suis dit, oh là là, il faut attendre peut-être. Pour une fois, je me suis dit qu'il fallait peut-être attendre d'avoir un professeur pour cela. J'ai attendu le bac pour faire
intégrer l'INALCO, l'Institut des langues et civilisations orientales.
À l'époque, on disait aussi « langue zone », n'est-ce pas très, très... Mais comme vous le dites, j'avais quand même ce dilemme qui était le chinois ou le japonais, parce que les deux langues me passionnaient. Et surtout, l'une, en tout cas le japonais, n'allait pas sans le chinois. Il y a des liens à la fois de vocabulaire, de vision du monde, et très concrètement culturel, parce que le chinois classique était un peu comme le latin chez nous, c'est-à-dire c'était la langue de référence, la langue sapientielle, comme la langue de sagesse, la langue intellectuelle du Japon, de la Corée et du Vietnam.
C'est ce que vous démontrez beaucoup dans vos travaux, les échos, les résonances qu'il peut y avoir entre les langues, voilà. Notamment le chinois et le japonais.
Et donc, il fallait choisir entre les deux.
Et vous avez choisi le japonais.
Alors, oui, mais pour des raisons très, très précises. À l'époque, j'ai passé le bac en 67. Or, en 66 et jusqu'en 76, a sévi en Chine la révolution culturelle, n'est-ce pas ? Où tout était absolument bloqué. Toute la Chine classique qui m'intéressait avant tout était effacée, en quelque sorte. Donc, du point de vue de l'avenir, la Chine s'était fichue. Or, j'ai découvert que le chinois avait une énorme importance. Le chinois classique avait une énorme importance dans la culture japonaise, la civilisation japonaise, de même d'ailleurs qu'en Corée et au Vietnam, et que étudier en profondeur le japonais impliquait l'étude du chinois classique. Donc le dilemme était résolu et je suis parti comme cela.
Vous sauriez dire aujourd'hui combien de langues vous avez commencé à apprendre ?
Oui,
je ne veux pas dire que vous parlez parce que dire que vous ne les maîtrisez pas, même si vous les maîtrisez.
C'est la question que me pose sans cesse petite fille qui essaye de faire le compte. Je lui réponds pour lui faire plaisir, mais une fois un ami japonais m'avait demandé la même question et j'ai répondu par une plaisanterie. Mais comme c'était au Japon, la plaisanterie a été prise au sérieux et j'avais dit il faudrait plutôt me demander quelle langue je ne connais pas. Disons que tout ce qui bougeait entre la Bretagne et Java m'intéressait. Maintenant, j'avais quelques critères quand même qui étaient importants. Je crois que l'UNESCO a lancé maintenant, je vois qu'ils ont la définition des langues classiques, n'est-ce pas ? Comment définir une langue classique ? Alors, il y a des critères tout à fait objectifs. Il faut qu'il y ait 500 ans de littérature. Je crois que c'est l'Inde qui a commencé à faire cela, parce que la situation linguistique de l'Inde est très complexe et en plus très riche, n'est-ce pas ? Donc il y a une quantité de grandes langues de culture en Inde, et comme le statut de langue classique implique des avantages de crédit, de budget, d'enseignement, etc., n'importe quelle langue ne peut pas se dire posséder une phase classique, une langue classique. Donc, alors, par exemple, 500 ans d'ancienneté, une littérature indépendante, une lignée d'enseignement continu, etc., etc. Alors, je m'y intéresse, ça ne veut pas dire...
Que vous les parlez toutes.
Oui. Et même que par exemple, à un moment, je lisais assez couramment le tibétain classique. J'ai pratiquement tout laissé depuis... Et le Collège de France n'a pas aidé, malheureusement, parce qu'il fallait travailler beaucoup sur mes cours, et j'ai laissé tomber la plupart de ces langues.
On comprend que vous avez quand même, a priori, une prédisposition certaine pour l'apprentissage des langues.
Oui.
Mais malgré tout, est-ce que vous avez confectionné une méthode d'apprentissage pour apprendre plus vite les langues? Je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui seraient intéressés de...
Malheureusement, non. Alors d'abord, je dois préciser tout de suite, enfin, les gens l'ont déjà compris certainement, mais je ne suis pas linguiste. Je ne suis pas linguiste. Une fois, un éminent linguiste m'a demandé, mais pourquoi n'êtes-vous pas linguiste? La réponse était très simple, les histoires phonétiques m'embêtent. Et j'avais toujours des notes absolument minables, alors que des gens qui n'étaient pas du tout forts en chinois avaient 20 sur 20 parce qu'ils discernaient les tons, n'est-ce pas? Alors vous voyez mon problème.
Vous êtes modeste, mais je suis sûre qu'avec les années, vous avez dû quand même...
Le chinois mandarin avec ses 4 tons, c'est encore du faisable. Mais vous en avez beaucoup plus en cantonais, par exemple. Autant ces questions de linguistique me passionnent, j'en lis beaucoup, mais je ne peux pas travailler comme cela. Et c'est surtout ce que portent les langues qui m'intéresse plutôt que la façon dont la phonétique fonctionne. Mmh. Encore que ce soit important, je ne le nie pas.
Enfin,
Alors, mon seul conseil, c'est de prendre n'importe quelle méthode fiable et d'écrire pour le fixer en mémoire et de lire beaucoup dès le début. C'est la plupart des langues où j'ai un peu progressé, c'est en lisant beaucoup. Mmh. Vous arrivez assez rapidement à acquérir un vocabulaire de base et puis à partir de là. Alors vous pouvez commencer par des textes connus, comme par exemple la Bible, l'Ecclésiaste par exemple. Dans la Bible, vous avez toute une liste de verbes, vous savez, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, etc. Ça vous fait déjà une petite liste de verbes essentiels que vous avez. Mais je crois qu'il faut beaucoup d'huile de coude, comme on disait, c'est-à-dire il faut beaucoup travailler.
Et beaucoup lire.
Oui.
Et beaucoup... Mais les textes dont vous parlez, comme la Bible, vous les avez étudiés sans autre support, c'est-à-dire que c'est vraiment les textes bruts.
Il faut d'abord avoir une formation un peu grammaticale. Le chinois, comme je vous disais, le chinois classique comme le chinois moderne, c'est vraiment à la lecture ou à la conversation que vous apprenez les structures qui sont très simples d'un certain côté. Mais je pense que la lecture est essentielle. Vous prenez des textes connus et vous... Maintenant, je regarde de temps en temps des sites d'apprentissage de langue, comme cela, et je vois beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui parlent de Harry Potter, par exemple. Lisant Harry Potter dans telle ou telle langue, parce qu'ils connaissent tous par cœur Harry Potter. Donc
beaucoup ont appris l'anglais grâce à Harry Potter
aujourd'hui.
Voilà. C'est un exemple
qui marche. Et comme Harry Potter est traduit dans une infinité de langues, et même en latin, il y a 2 volumes traduits en latin et 1 volume traduit en grec classique. Très, très bien d'ailleurs, le grec classique. Le latin, il y a pas mal de petits problèmes. Alors voilà.
Bon, je pense qu'il y a peu de personnes qui achètent Harry Potter en latin ou en grec, mais...
C'est vrai, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas continué ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, ils sont arrêtés à 2 pour... Et pourtant, l'autrice, Rowling, avait dispensé les droits d'achat. Elle avait fait donc dans ce souci didactique, justement, pour la promotion des langues classiques.
Oui, parce que là, vous parlez du latin, parce que vous comprenez très bien et parlez très bien le latin aussi.
Oui,
ça, on ne l'a pas dit.
Bien, oui.
C'est assez singulier, parce que le latin, c'est une langue... Ouais. Alors, je pense que vous n'allez pas aimer le terme, j'allais dire une langue morte.
Oui,
vous militez pour que ce soit...
Il faut bien dire quelque chose à ce sujet, mais en effet... Mais je m'empresse d'ajouter, c'est peut-être une bénédiction plutôt qu'une malédiction, mais nous sommes 2 Jean-Noël Robert à sévir sur la place de Paris.
Oui, vous avez un homonyme.
Oui, voilà, qui lui est un vrai latiniste, n'est-ce pas? Donc,
vous le connaissez? Vous êtes déjà rencontré?
Nous sommes rencontrés 1 ou 2 fois, puisqu'il c'est un des piliers de la maison d'édition des Belles Lettres. Enfin, c'est tout à fait intéressant, comme ça pourrait presque faire une scène de film, n'est-ce pas, si nous avions été identiques, mais nous ne le sommes pas, on peut quand même nous distinguer. Mais depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours eu envie d'écrire le latin. Et pour le parler, en revanche, je n'y avais pas trop pensé, et je peux peut-être vous raconter, là encore, il y a un épisode très ponctuel. Il y a un moment où je faisais des voyages en Chine l'été, je conduisais de petits groupes, enfin j'étais conférencier, et une fois fois dans une ville, une très grande ville chinoise, mais qui n'est pas très connue à l'étranger, qui s'appelle Xining, qui est une ville un peu, enfin, cosmopolite à la chinoise, c'est-à-dire où il y a toutes sortes de minorités qui sont représentées. Et puis, dans la banlieue de cette ville, lorsque nous sommes arrivés en car, nous voyagions en mini-car, n'est-ce pas ? Nous voyons au loin une église à peu près comme on en verrait en Bretagne, enfin avec certains des touristes. Il faudrait qu'on voit cette église. C'est bien, nous sommes allés, nous sommes entrés et il y avait un prêtre chinois qui faisait un baptême. En nous voyant, il a été malheureusement, il a un peu expédié son baptême, je trouve. Enfin, ça s'est fini très vite et il est venu nous parler après. Et là, surprise, il nous parle latin.
Le prêtre chinois.
Le prêtre chinois nous parle latin. Et je me souviens de cette phrase extraordinaire, il me dit « Annis viginti in carcere fui profi de Christi », n'est-ce pas ?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc, j'ai été 20 ans en prison pour ma foi en le Christ, n'est-ce pas ?
Oh.
Alors, ça, c'est une belle phrase. Et malheureusement, moi, je balbutiais du latin, n'est-ce pas ?
Vous n'étiez pas encore très à l'aise à l'oral
voilà,
en latin.
Je dis, voilà, exactement. Mm. Je dis, oh là là, et si jamais ce cas se reproduit, il ne s'est jamais reproduit, malheureusement. Mais je me suis dit, il faudrait quand même faire quelque chose pour latin parler.
Donc, une fois que vous rentrez en France, enfin en Europe, vous avez décidé de prendre des cours de conversation
Alors ça s'est encore cumulé avec un parcours personnel parce que quelques années plus tard, autour de la quarantaine, j'ai été très gravement malade. Les médecins étaient un peu sceptiques sur mon avenir et oui. J'avais deux opérations. Si bien qu'entre les deux opérations, je me suis dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose que je n'aurais pas l'occasion de faire. Et je me suis inscrit en conversation latine à Bruxelles. Mais pendant une semaine intensive, on faisait du latin, matin, midi et soir. En plus, le soir, ça finissait au café où nous continuions de parler latin.
Des gens donc vous étiez un groupe, il y a plusieurs personnes
qui voulaient parler
latin.
Et ça a marché très bien. Vous direz, ce sont des drôles de goûts, mais j'étais parti avec les lettres de Pline le Jeune en latin, n'est-ce pas ? Les lettres latines qui sont... Et puis en revenant, au bout d'une semaine, je lisais comme si c'était du français.
Vous lisiez Pline en latin dans le train.
Mais avec une rapidité beaucoup plus...
Comme si vous lisiez Madame
presque.
Bovary en français.
Peut-être plus facilement encore. Sauf les parties juridiques. Pline était un malade du droit. Mais toutes ces lettres narratives, il y en avait d'excellentes. Il y avait même des histoires de fantômes, de tout ça. Donc on voyait à quel point connaître activement une langue était importante.
Ouais,
c'était vraiment la démonstration.
Non seulement vous parlez latin et vous l'écrivez, j'ai lu que vous écriviez des nouvelles de science-fiction en latin.
Ah oui, tout ça. Oui, enfin oui, ça oui. Oui, bah oui, il faut bien faire quelque chose. Surtout plutôt fantastique. Enfin oui, en effet, il y en a quelques-unes de science-fiction que je n'ai pas encore publiées.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on vous lit ?
Oui,
il y a des personnes qui sont.
Alors, c'est un public très restreint, comme vous imaginez. Je fais de temps en temps des petits tirages que je fais coller, n'est-ce pas, et que je donne à quelques amis.
Et toutes ces nouvelles, vous les écrivez sous pseudonyme ? Je peux le dévoiler ou pas ?
Ah oui, vous pouvez le dévoiler parce qu'il est sur Internet, on le trouve en deux clics.
Je crois que vous vouliez que ça reste secret.
Il n'y a pas de raison. Enfin,
non.
Mais de toute façon, je ne pense pas que ça va créer un embouteillage sur l'Internet. Mais oui, en effet, j'avais pris le pseudonyme d'Alexander Grisius.
Il y a une signification particulière ?
Oui, Alexander, parce que c'est mon second prénom. Jean-Noël Alexandre Robert, que j'utilise souvent maintenant pour me distingué de l'autre Jean-Noël qui, je l'espère, ne s'appelle pas Alexandre ni Alexis. Mais je signe parfois Jean-Noël A. Robert, à l'américaine. Et puis, Riccius, alors c'est pour plusieurs raisons. Ma mère était d'origine italienne et sa famille s'appelait Ricci. N'est-ce pas ? Et l'un des grands pionniers de la sinologie, en quelque sorte, c'était un missionnaire italien qui s'appelait Matteo Ricci. Il a appris parfaitement le chinois. Mmh. Bien sûr, il se faisait aider de lettrés chinois, mais il a été aussi loin qu'il est possible de le faire pour un occidental dans la connaissance du chinois classique. Il a écrit en chinois, justement, et c'est l'un des pionniers par lesquels la connaissance de la Chine est arrivée en Europe. C'était un jésuite, donc vous avez les lettres jésuites sur la Chine, les lettres de la Chine, etc., qui étaient une sorte d'encyclopédie sur la Chine qui a été diffusée tout au long du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est grâce à Ricci qu'on le doit, à Riccius. Les Japonais compose des haïkus à la chaîne, n'est-ce pas ? C'est un peu comme une mitraillette. Et puis dans ce qu'ils ont composé, ils choisissent ceux qui leur semblent dignes d'être retenus.
Vous, vous en composez ?
Oui, j'ai fait donc des haïkus frénétiques. J'ai appelé ça... c'est la traduction d'un terme japonais qui veut dire, en effet, haïku fou, si vous voulez. Haïku dingue, n'est-ce pas ? De folie. Kyoku, en japonais.
D'accord.
Et donc j'ai traduit ça par... Le mot haïku, maintenant, existe en latin moderne. Et donc j'ai... avec un haïku à frenetica, n'est-ce pas ? Et j'avais fait un millier de haïku, en 10 centuries de haïku, sur des thèmes plus ou moins de science-fiction ou d'horreur. Voilà.
Toujours de la science-fiction.
Je peux encore ajouter que j'ai fait une petite série d'enquêtes policières écrites en latin.
Toujours
justement,
en latin.
Voilà. Donc, il y en a deux qui ont été publiées dans une revue de langue latine, mais je n'ai pas continué pour l'instant.
Pour tous vos travaux, vous avez été fait chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre du Mérite, commandeur des Palmes académiques. Il y en a une que je ne connaissais pas. Vous avez reçu l'étoile d'or et d'argent de l'Ordre du Soleil Levant. C'est très joli.
Ah oui, ça c'est...
C'est quoi ? C'est l'équivalent de la Légion d'honneur au Japon, c'est ça ?
C'est l'un des ordres les plus prestigieux japonais, dont je ne sais pas, je pense que c'est une erreur administrative, mais ils me l'ont décerné au niveau le plus important qui soit pour des non-politiciens ou etc. Donc voilà, j'en suis extrêmement content. Je l'arbore toujours lorsque je viens pour les grandes cérémonies de l'académie. C'est très beau
c'est
en plus.
Une très jolie médaille.
Et ça mérite d'être double. Mais je la partage par exemple avec Michel Zin, qui l'a aussi.
Votre confrère à l'académie.
Oui, un médiéviste.
Des inscriptions. Et vous êtes académicien depuis 2006, vous êtes membre
l'Académie
des Inscriptions et Belles Lettres. C'est une académie, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui rassemble des savants, spécialistes notamment des civilisations anciennes comme vous. Je serais curieuse de savoir à quoi ressemble votre épée d'académicien. Est-ce que vous y avez mis des citations en latin ou en sanskrit
non,
dessus ?
Non, c'est un sabre japonais, mais ce n'est pas le grand sabre qui sert à couper les têtes des gens. C'est plutôt un petit sabre qui servirait plutôt à se suicider en cas de besoin, mais qui est très très bien parce que c'est le sabre aussi. Vous savez, les Japonais de la bonne société avaient toujours un sabre. Dans le Japon pré-moderne et encore un peu, il y avait ce qu'on appelait des académies, en japonais le mot juku, qui était donc centré sur un professeur, un lettré, etc. Et lorsqu'il enseignait, il avait toujours son sabre posé à côté de lui. Ce sabre est le don d'un ami collectionneur qui s'appelle Alain Briot, le docteur Alain Briot, qui est un grand connaisseur du Japon qui m'a fait don de ce sabre qu'on appelle un wakizashi en japonais. Donc, et voilà, donc j'en suis très, très, très heureux.
Que vous ressortez pour les grandes
non,
cérémonies.
Non, justement, parce qu'il est insortable, si j'ose dire, parce que les sabres ou les épées européennes peuvent être mises sur un baudrier.
Oui.
Mais pas un sabre japonais. Il faudrait que je me vienne en kimono avec un hobby, une ceinture japonaise dans laquelle je puisse passer mon sabre. J'aimerais bien, mais...
Donc vous ne pouvez tuer aucun confrère,
non,
malheureusement.
Mais c'est surtout pour tuer l'ignorance, donc voilà.
Oui, on préfère. Merci à vous, Jean-Noël Robert, de vous être prêté au jeu du portrait. Est-ce que vous avez une actualité à mettre en avant particulière ?
J'ai une actualité, mais malheureusement, elle sera japonaise. Je dois partir le 13 mai pour faire une série de 4 conférences au Japon, dont l'une pour saluer, mais ça va être encore, pour saluer l'inscription à l'UNESCO d'un triple canon bouddhique en chinois qui est conservé dans l'un des grands temples du milieu de Tokyo, n'est-ce pas, le Zojoji. Et ce triple canon bouddhique a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, voilà.
Et ben, je vous souhaite un excellent voyage au Japon. Merci aux auditeurs qui ont écouté cette émission jusqu'à la fin. À très bientôt pour un nouveau portrait d'académicien ou d'académicienne. En habit vert, c'est tous les mois. À bientôt.
En habit vert... Rencontre avec un académicien. Les podcasts de l'Institut de France.